On est ensemble jusque-là avec nos invités pour la première partie de la grande table. Bonjour à tous, comme un jeudi, une émission sans fausse note. On va essayer littérature-fiction tout d'abord avec Pierre Bayard. L'écrivain peut-il prédire l'avenir ? Professeur de littérature française à l'université Paris 8 et psychanalyste, il publie ce mois-ci « Le Titanic fera naufrage » aux éditions de Minuit. Dans la foulée, qui sera le prix Nobel de littérature 2016 ? Le nom du lauréat, dès que nous aurons l'info, ce sera autour de 13h. Mais d'abord, musique maestro avec le soliste violoniste serbe Nemanja Radulović pour son nouvel album « sobrement intitulé Bach, demain dans les Bachs. Et puis dans la première partie de la Grande Table également, nous recevons notre chroniqueur François V, qui a eu un gros coup de cœur pour les photos de l'américain Herb Reeves à la Maison Européenne de la Photographie. Il nous en dira tant, 5 minutes avant midi et demi. La Grande Table s'écoute sur France Culture ou sur franceculture.fr. Elle se tweet, elle se like et elle se télécharge à la page de l'émission. Bienvenue à tous.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
En tournée européenne avec deux haltes au-delà, en Russie et en Australie. Voilà ce qui est programmé pour l'instant avec son ensemble, l'ensemble Double Sens, des musiciens français, d'autres, des amis d'ex-Yougoslavie. Il s'attaque à un répertoire unique après Paganini, Fantasy et Carnet de voyage, pérégrination musicale entre Brahms, Tchaïkovski, Shostakovich jusqu'à La vie est un miracle d'Emir Kusturica. Le jeune violoniste Nemanja Radulović reprend Bach, compositeur allemand monument et entêtant Bach. C'est d'ailleurs le titre de l'album, comme si avec lui un seul nom suffit. Nemanja Radulović, bonjour.
Bonjour.
Mais comment ça, Bach ? Bach, c'est sacré. Vous attaquez à Bach.
Je pense que... c'est, alors, comment commencer ?
Débrouillez-vous.
Je vais essayer. Bach, pour moi, j'avais toujours une sorte de fidélité que je sentais avec ce compositeur parce que il était toujours présent dans les moments un peu de... Et quand j'ai quitté la Serbie après la guerre, et puis ça m'a suivi pendant les études, c'est présent quand je fais des concerts. Donc voilà, de Bach, et j'ai toujours pensé en fait... qu'on essayait toujours de changer de style toutes les quelques années. Il y a une façon de jouer du Bach qui est actuelle. Et en fait, souvent, quand on passe avec un côté tellement intellectuel, on oublie que c'était un être humain et on oublie qu'il a écrit, enfin, je me dis ça, qu'il a écrit cette musique pour pouvoir justement exprimer ses émotions. Et voilà, je voulais faire un disque, on lui dit dédions, voilà, de sa musique, et puis aussi me tourner vers son fils Jean Chrétien, et aussi pour la première fois avec un concerto d'alto.
Oui, c'est pas toute la famille Bach qui est réunie, mais non, le père et un de ses fils.
Ils sont nombreux. c'est le père et fils, violon, alto, et puis double sens aussi, comme vous avez dit, une partie française, parce que je suis franco-serbe au jour d'aujourd'hui, et une partie d'ex-Yougoslavie.
C'est intéressant, vous dites justement qu'on oublie qu'il était aussi un homme Bach. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on a trop tendance à le déifier quelque part. C'est un tel monstre
pour
de la
grands,
musique classique.
Pour les grands génies, on a la tendance toujours de chercher encore plus loin, et souvent on oublie la simplicité. J'ai beaucoup de chance en travaillant avec Patrice Fontanarosa au conservatoire, qui déjà à l'époque me disait, mais pourquoi tu fais une différence entre Bach et Brahms ou Bach et Beethoven et Bach et un autre compositeur? C'était avant tout un être humain. Et voilà, il faut essayer de présenter ta propre version et tes propres convictions en jouant cette musique.
Et comment on s'invente sa propre version? Parce que vous le dites, il n'y a pas une manière de jouer du Bach, il y a mille manières. On peut poser un regard, des émotions qui vous sont particulières, j'imagine, sur ce répertoire. Comment vous avez cherché, où était votre patte sur cette interprétation?
Musicalement parlant, je cherchais surtout avec les basses. En fait, j'essayais toujours dans l'écriture de cette musique, les basses sont tellement importantes, c'est un peu comme l'orgue qui s'y tient, surtout dans les partitas et les sonates pour violon seul, on n'a pas forcément l'harmonie claire. Donc on essaye d'entendre certaines harmonies de différentes manières et puis de chercher justement, je pense, quand on apprend un répertoire, on n'apprend pas seulement la technique, mais il faut chercher aussi parfois la musique. Et puis ça se fait, je pense, le plus naturellement devant un public et sur une scène. C'est là où on comprend vraiment dans quelle direction on a envie d'y aller.
Alors ça y est, je laisse un peu monter chez ceux qui nous écoutent l'envie de vous entendre avec votre violon interpréter Bach. Bach, c'était quand même un des premiers compositeurs que vous avez approché à Belgrade. C'est Bach, ça s'étudie avant tout.
Oui, ben Bach, c'est je pense que il n'y a pas un seul violoniste qui a pas passé par Bach. J'ai eu cette chance aussi de voilà sur cet enregistrement de collaborer avec Tijana Milošević qui est une violoniste qui était dans la même classe que moi à Belgrade déjà. On a gardé le contact et le premier double concerto que j'ai fait de Bach, c'était avec elle. Donc c'était drôle de se retrouver aussi une vingtaine d'années plus tard.
Eh bien justement, on va vous écouter. Ça veut dire que quand même, quand vous étiez jeunes, tous les deux, vous avez dû le massacrer, ce pauvre Bach. Et maintenant, hein, que vous avez bien grandi, vous vous rattrapez. L'album s'ouvre sur une interprétation du concerto pour deux violons et ça donne ça. Concerto pour deux violons, joué donc avec Tijana Milošević, votre amie d'enfance avec qui vous avez commencé à jouer du violon à Belgrade. Gardez la même fraîcheur, disiez-vous, sans fausse note, en y ajoutant la perfection. Est-ce qu'il y a un violon qui guide, voire qui domine l'autre dans cette interprétation, dans ce mouvement?
Non, parce que c'est vraiment une collaboration à égalité. D'ailleurs, c'est Tijana qui commence ce concerto. Voilà, il y a deux parties, premier et deuxième violon, mais il n'y a absolument pas de différence dans la partition. Ce qui était pour nous intéressant quand on a enregistré, voilà, comme vous avez dit, on essayait de garder la même fraîcheur en étant voilà de l'époque et d'essayer de trouver le même son, le son qui se ressemble, en gardant les différents caractères qu'on a et quand on joue séparément. Donc c'était vraiment super de connaître quelqu'un et de faire la musique avec quelqu'un en qui on a confiance et avec qui on peut parler en jouant.
Vous avez commencé avec Bach à Belgrade. Est-ce que vous l'avez retrouvé quand vous venez en France, au conservatoire? Qui vous a accompagné là-bas dans la découverte de Bach? Peut-être une autre lecture?
Alors, j'ai eu de différents professeurs. Et c'est vrai que mon premier professeur, qui était un élève de David Oistrakh à Moscou, avait une vision de Bach qui était, je dirais, plus classique, qui était bien pour passer des concours, pour se préparer et arriver en France, donc avec Patrice Fontanarosa, C'était l'ouverture complète de, d'esprit et d'interprétation. Et donc, entre les deux, je pense que je nageais. Et puis aussi en écoutant d'autres versions historiques et puis actuelles. Voilà, on se fait sa propre version.
Donc en France, le maître, pour vous, c'est Patrice Fontana Rosa qui vous a enseigné, en tout cas, oui. Un autre bac.
Voilà, pas sur mon bac, mais sur toute la vie. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé voilà, en arrivant en France.
Aujourd'hui, est-ce que vous jouez un violon particulier, Nemanja Radulović?
Pour moi, il est particulier parce que je l'ai choisi pour sa sonorité et sa l'état physique aussi, parce que c'est très important quand on passe plusieurs heures par jour d'avoir aussi physiquement un instrument qui nous correspond. Et c'est un instrument qui a une palette de couleurs, on ne sait pas qui l'a fait. C'est un instrument anonyme, on dit que c'est plutôt un instrument français de 19e siècle, mais on ne sait pas qui l'a fait. Et voilà, c'est un instrument qui me parle beaucoup et qui, avec qui j'aime beaucoup passer du temps.
Il n'y en a qu'un.
Il n'y en a qu'un.
Ça, c'est fou. C'est exclusif, en fait. Hein.
Mais je pense que c'est important parce que de passer d'un violon à l'autre, c'est assez compliqué, surtout quand on a une activité de concertiste, c'est plus difficile.
Alors c'est le moment où il faut que je vous pose absolument cette question, Nemanja, maintenant même sur le divan. Il va falloir nous expliquer cette pochette de disque. La mèche de crin de votre archet est comme libérée, ondulante, elle est détachée. Pour évoquer quoi? C'est un peu la baguette du magicien quand même d'abord, hein?
En fait, je pense que le choix de cette couverture s'est fait
Il va falloir l'assumer. Hein, oui.
Non, mais j'assume pire il y a quelques années.
J'ai pas dit qu'elle n'était pas belle.
Non, mais en fait, je la trouve très artistique et je la trouve très aérée, en fait, avec beaucoup de vent et peut-être un peu de fougue, tout en étant en arrière, parce que je suis pour la première fois derrière Bach. Et le titre, voilà, c'est aussi des idées après qui se font avec la maison de disques. Et j'aime bien parce que je suis derrière l'archet, je suis derrière Bach et avec un mouvement. Et pour moi, la musique, c'est le mouvement, ça doit danser et ça doit respirer et ça doit être libre.
Mais il n'y a pas un oubli? Il n'y a pas un grand absent pour vous sur cette pochette? François V, qui est déjà à nos côtés. Vous ne voyez pas, non?
Je ne vois pas très bien le violon, en fait. Mais
moi, je
ne
le vois pas non plus, le violon.
Oui.
Où est-il, ce violon, Nemanja?
Le
c'est
violon
un oubli, c'est un déni,
c'est
un choix délibéré de mettre en avant l'outil plutôt que l'instrument?
L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre.
Mais alors?
Donc, voilà, mais c'est oui. Vous avez raison, peut-être. Il y a un oubli de violon. Il y avait d'autres photos avec le violon qui étaient peut-être un peu moins bien. Et le choix s'est fait comme ça.
Alors, suit un arrangement dans cet album d'Alexandre Sedlar pour violon et orchestre de la Toccata et Fugue, où le violon remplace l'orgue. Un autre regard sur l'œuvre. On va en écouter un extrait.
Thank you.
Il n'y a pas de fugue ici, moi j'entends plutôt de la fougue, Nemanja.
Mais je pense que la musique de Bach nous permet aussi au jour d'aujourd'hui d'aller encore plus loin avec les tempi, la rapidité d'interprétation. Et c'était aussi l'idée en commun avec l'ensemble Double Sens d'essayer aussi d'adapter un Bach d'aujourd'hui, la façon dont on vit. Et je pense que en général, chaque artiste essaye de laisser une trace de son temps. Et forcément, on ne vit pas de la même manière qu'à l'époque où ça a été composé. Et voilà, c'était ça aussi l'idée.
Et comment il a travaillé, Alexandre Sedlar, pour réarranger cette toccata?
Alors, Sedlar, c'est encore une fois une histoire de fidélité, parce qu'on a travaillé sur d'autres projets. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une ouverture d'esprit et je parle beaucoup de ça, mais c'est pour moi, je me rends compte que c'est tellement important de ne pas être juste dans une seule case. Il est compositeur classique, il est chef d'orchestre, il est musicien de rock, il est chanteur aussi. Et en fait, il dans sa musique et dans ses arrangements, ça, on peut avoir un peu touche à tout sans que ça passe juste une variété ou un rock ou que le classique. Donc il y a tout un mélange qui reste dans le entouré de genres classiques.
C'est aussi quelque chose, ce côté touche-à-tout, que vous infusez quelque part dans votre manière de jouer, s'inspirer de différents styles musicaux, même dans votre manière d'interpréter un répertoire classique.
Oui, je pense que c'est important parce que je pense que ça va pas seulement dans un sens. On a besoin de s'inspirer de différentes choses, pas seulement dans la musique, mais dans la vie, pour voir qu'il y a aussi d'autres choses et qu'il y a des bonnes choses aussi ailleurs. Et c'est ça ce qui m'a, depuis un certain temps, ce qui m'inspire et ce qui me fait aller plus loin et imaginer. En fait, je disais tout à l'heure que j'adore la musique classique, mais j'adore l'énergie rock lors d'un concert. C'est tellement porteur et les gens ressortent toujours avec le sourire. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec l'ensemble.
Donc, ce que votre look inspire, c'est vrai, vous passez pas vos soirées dans les salles de concert, à la Philharmonie ou ailleurs. Vous allez aussi parfois dans des concerts de rock.
Non, parce que vous avez je vais partout. Je vais aussi bien et je change pas ma manière.
Vous avez cette crinière absolument démentielle, une chevelure, des longs cheveux frisés noirs. Vous êtes côté look entre le guitariste de Metallica, très heavy metal, et le dandy des Balkans, un peu tzigane chic. Vous en jouez un peu de tout ça quand même aussi, non?
Mais vous m'auriez vu il y a 10 ans, j'étais pareil.
Je croyais que vous alliez me dire que c'était pire.
Non, mais on choisit pas forcément nos cheveux, comment ils vont pousser. Pour moi, les cheveux sont importants sur la scène, parce que c'est quand on est exposé devant un public, souvent on peut se sentir un peu nu. Donc c'est un moment où ça me donne une sorte de concentration et un petit endroit pour moi.
Un cocon, c'est votre manière aussi de ressembler à aucun autre, Nemanja Radulović. Sedlar a aussi pensé dans cet album une autre version pour orchestre de la Chaconne. La Chaconne de la partita numéro 2 pour violon seul, arrangée par Alexander, c'est de l'art, et interprétée, jouée au violon par vous. Qu'est-ce que vous avez cherché avec ce morceau ? Il n'y a pas aussi quand même quelque chose qui relève aussi pour vous de la prouesse technique et physique avec ce mouvement de 13 minutes ?
Alors c'est une pièce qui est assez difficile physiquement et mentalement, mais c'est une pièce aussi qui nous laisse tant de possibilités. Je l'ai jouée en étant encore en Serbie et elle était toujours présente dans mon répertoire. Il n'y a pas une seule année où j'ai pas joué la Chaconne de Bach avec des différents arrangements, aussi bien en version originale, donc pour violon seul, mais aussi arrangé par Schumann avec un piano, arrangé par Marc-Olivier Dupin qui a écrit un arrangement pour sextuor à cordes, et puis maintenant par Sedlar. Et je me rends compte que je pense que je la jouerai toute ma vie, parce que je finirai jamais à chercher, à trouver des nouvelles choses dans cette pièce.
Nemanja, le disque n'a pas été enregistré en studio, mais dans une église. Oui. Le choix, c'était quoi pour vous, d'une acoustique différente ?
Acoustique, c'était surtout acoustique, parce que on avait envie d'avoir un écho naturel, sans travailler le son par la suite, et que ça soit le plus naturel possible, et que il y a cette énergie et cette spontanéité qu'on peut avoir au concert.
C'est une petite église, elle est comme parisienne.
Elle est quand même assez grande.
Grande.
Elle est assez grande.
Mais vous le jouerez dans des théâtres, dans des salles de concert. Le 5 novembre, par exemple, vous serez au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.
Oui.
Donc ce que vous avez pensé pour l'enregistrement de ce disque, ça va sonner finalement complètement différemment quand vous allez le jouer.
Ça va sonner différemment, mais il y a quand même une belle acoustique au Théâtre des Champs-Élysées. Voilà, on fait des concerts classiques, on fait de l'opéra aussi. Donc même si c'est pas le même son que dans une église, ça va quand même bien sonner.
Vous n'avez pas voulu jouer ce midi pour nous, pourquoi ? Vous n'aimez pas improviser ?
J'adore improviser. Mon violon, il est en ce moment chez le luthier. Je viens de faire une croisière musicale. Il a pris beaucoup d'humidité et il s'est décollé à deux endroits. Donc voilà, malheureusement, je le retrouve que demain. Mon instrument.
Bon, on regrette, voilà. Mais heureusement, il y a ce disque, Bach, tout simplement intitulé, qui sortira demain dans les Bach, et que on a pu écouter des extraits, à défaut de pouvoir vous entendre en jouer, on viendra vous voir. Alors, il y a cette date à Paris, mais vous allez continuer à tourner partout en France. Ce sera en tout cas donc le 5 novembre pour les Parisiens au Théâtre des Champs-Élysées. Puis on met toutes les références sur le site de la Grande Table, à retrouver aussi de votre côté. Un grand merci à vous.
Merci.
Restez
à
avec
vous.
Nous. On va retrouver notre partenaire, François V.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Oui, il y aura aussi d'abord le 16 octobre, la Croisette à Cannes. Bonjour François V.
Bonjour Olivia, bonjour à tous.
Comme tous les jeudis, rendez-vous donc avec vous. Et ce midi, le triomphe de Riad Satouf, Fantin Latour, le dédaigné et le plus séduisant des photographes américains à vos yeux.
Oui, je voudrais partager avec vous un emballement. C'est celui que j'ai éprouvé en contemplant les photos de l'américain Herb Ribbs à la Maison européenne de la photographie à Paris. Ces images de nu, ces clichés de stars touchent au sublime. Cet artiste qui a beaucoup travaillé pour les magazines de mode est bien plus qu'un photographe de mode. Et comme nous sommes à la radio, je voudrais juste vous décrire une de ses compositions. Au départ, en 1989, Herb Ribbs répond à une commande du magazine Rolling Stone qui a sélectionné une brochette de top modèles prometteuses. Il réunit donc Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatiana Patitz et Naomi Campbell, soit les cinq filles les plus en vue alors. Et il les fait assises sur un plancher, blotties les unes contre les autres, cinq toutes jeunes femmes dans le plus simple appareil, merveilleuses de fragilité, d'innocence, de naturel et de sensualité, et elles forment un bouquet au graphisme épuré. Cette photo-là, c'est un sommet pour moi dans l'art de la photographie. Et la belle histoire avec Herb Ribbs, qui est né en 52 et mort en 2002, c'est que ces images en noir et blanc, inouïes, sont le fruit d'un lent et patient apprentissage. Il est probablement le photographe qui a la plus vaste culture photographique. Il a assimilé en quelque sorte tous ses devanciers, alors que c'est un autodidacte. D'ailleurs, au départ, en 1978, il s'est fait remarquer avec un cliché de son copain Richard Gere, qui rêvait alors de devenir acteur. Il l'a shooté devant une Buick, dans une station-service à San Bernardino. Alors on s'arrête dessus, mais on ne crie pas encore au génie. Mais quand en 86, il saisit de profil Madonna, la tête relevée, la poitrine appuyée contre un mur, avec un perfecto qui dévoile ses épaules nues, on mesure aussitôt le chemin parcouru. Ah, c'est presque beau comme du Michel-Ange.
Mais on a le perfecto là de Nemanja Radojević. On pourrait peut-être essayer de reconvoquer les dieux de la photographie pour en faire une belle photo. Mais vous vouliez revenir aussi sur l'énorme succès de Riyad Sattouf, François V.
Oui, parce que le troisième tome de son Arabe du futur s'est déjà vendu à plus de 140 000 exemplaires. Et ce, alors que les deux premiers tomes s'étaient vendus à 700 000 exemplaires rien qu'en France. Il y a eu 1 million d'albums commercialisés à l'étranger, avec un accueil incroyable aux États-Unis. Donc voilà un auteur de BD qui est en train de tout emporter. Porté sur son passage, la BD devient un art populaire avec lui, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, mais sa force c'est de dessiner comme d'autres parlent. Et bien sûr, en apparence, son petit Riyad, on pourrait croire que c'est le petit Nicolas, mais en fait, il arrive à nous faire comprendre comme personne le monde arabe, dans les années 80, au travers du regard d'un enfant qui admire son père universitaire syrien, mais qui a aussi le point de vue critique de sa mère française, qui vit mal la condition de femme au foyer dans ce pays, resté très traditionnel et très fermé. Et alors, on a tous en tête les atrocités de la guerre en Syrie depuis 2011, mais là, il y a une manière de l'aborder de façon moins dramatique, et c'est la série Vue d'en bas, avec un Riyad faussement candide, mais vrai ethnologue.
Pour finir, un mot du peintre Fantin Latour. Hein.
Oui, parce que voilà, on va à cette exposition au musée du Luxembourg en se demandant si ça vaut vraiment la peine. On découvre les natures mortes qui furent son gagne-pain. On voit ses autoportraits. Et puis, on se dit que finalement, ce qu'il a réussi de mieux, c'est les portraits des gens de son temps. Il les a peints bon, un peu comme des pots de fleurs, mais il les a regroupés de manière étonnante. Et on connaît tous la scène qui réunit Verlaine et Rimbaud sur un coin de table. Ça reste mythique.
En savoir plus, en lire plus, ce sera demain dans le Parisien Magazine. Merci à vous, François V. Je rappelle que le titre de l'album de notre invité Nemanja Radulović, Bach, tout simplement, et c'est sorti sous le label Deutsche Grammophon. Merci beaucoup à tous les deux. À suivre le journal d'Antoine Mercier, puis le second invité de la Grande Table, philosophe François Julien, pour qui... non, pas François Julien, qu'est-ce que je raconte? Pardon, mille pardons, cher Pierre Bayard. Pierre Bayard, donc, pour votre essai, Le Titanic fera naufrage aux éditions de minuit. On vous retrouve à partir de 12h55 et peut-être avant dans le journal d'Antoine Mercier.